Selon les traditions judéo-chrétiennes, c'est Nemrod régnant sur les descendants de Noé qui eut l'idée de construire à Babel une tour. Une tour assez haute pour que son sommet touche le ciel. Descendant de Noé, il représentait donc l'humanité entière et était censé tous parler la même et unique langue sur Terre. Pour contrecarrer ce projet qu'il jugeait plein d'orgueil, Dieu multiplia les langues, afin que les hommes ne se comprennent plus. La construction dut s'arrêter et les hommes se dispersèrent sur la terre. Babel, c'est une tour et une ville. Babel, une entreprise collective pour exister. Babel, c'est une tour qui n'a d'autre but que de donner sens à l'entreprise qui est la construction de la ville. Babel, la ville devient alors un creuset d'humanité. Babel, Babel est une invitation à l'ouverture à l'autre. Babel, différent puisque parlant une autre langue. Au sommet du temple, il existait un théâtre avec un café à l'intérieur. C'est du moins ce que nous enseigne l'archéologie. Un café où les gens se retrouvaient pour échanger sur ce qui se passait dans la cité et pour parler un peu de théâtre, accessoirement.
Bonjour, bienvenue au Théâtre Jean Villard pour ce troisième Café Babel de la saison que nous co-présentons, Luc Bremer.
Bonjour.
Le directeur du théâtre et moi-même, donc Julien Bouffier, directeur de la compagnie ADSO SM Pré en résidence dans ce même théâtre Jean Villard. Alors nous sommes en direct sur Divergence FM 93.9 et nous saluons tous les auditeurs qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être avec nous ce soir. Les mots d'excuse sont à donner à Jeff. Jeff, je sais qu'en même temps, Jeff n'est pas très sympathique, mais c'est lui l'intendant de la vie Babel, et mieux vaut que votre excuse ne soit pas en bois, hein, sinon vous ne serez pas excusé de votre absence ce soir au Café Babel, donc au Théâtre Jean Villard. Mais bon, heureusement, Divergence FM 93.9 est là pour tenir ce lien vers la cité. Alors nous avons donc 60 minutes pour échanger autour du théâtre et de l'actualité du monde. Pour cette nouvelle saison, nous avons construit le Café Babel en rubrique qui se répète à chaque émission. Nous passerons de l'agence de notation sur l'actualité culturelle de la région avec ce soir Anne Devailly, correspondante au Monde, qui va nous raconter ses mésaventures pour créer un nouveau média d'art. Au monde des photoreporters avec Xavier Manafos, qui sera cette année le photographe de la nouvelle édition du Festival Hybride. Nous dévoilerons ainsi la nouvelle affiche Hybride 5 qui nous commentera ainsi que son travail de photoreporter. Il y aura la rubrique, évidemment, la page musicale avec cette année des invités différents à chaque rendez-vous. L'année dernière, on avait l'habitude d'avoir le Skeleton Band avec nous. Cette année, c'est chaque fois des nouveaux artistes qui sont avec nous. Et donc, cette année, à chacun, nous avons proposé de concevoir un nouveau générique au Café Babel. Et ce soir, vous venez d'entendre Rimbaud. Donc Rimbaud, hein, tout autant dévoué à sa musique qu'à l'image, puisque en plus de son nouvel album qui va sortir bientôt, il finit un film qu'il a réalisé à partir des thématiques présentes sur son album intitulé « Retrouver mon calme ». D'ailleurs, je ne sais pas si on doit le lui souhaiter de retrouver son calme, mais bon. Comme ce Café Babel est sous le signe de la musique et de la programmation Montpellier à 100% de Bobby, nous avons la chance d'accueillir aussi le chanteur du groupe Yaros, qui en plus d'une de ses compositions personnelles jouera une reprise spécialement pour nous de Léo Ferré. Et évidemment, donc un des deux artistes qui sera présent ce soir au Théâtre Jean Villard pour le concert. Donc ce soir, il y a le concert de Zob et de Nefché Irlian. Et donc Nefché Irlian est avec nous, à la gentillesse de passer un petit peu de temps avec nous avant de se préparer pour jouer à 20h, donc au-dessus de nous, au-dessus du café. Et nous avons aussi donc Camille Vorgé, linguiste, qui s'intéresse beaucoup au slam et qui dialoguera à ce sujet avec nos invités musiciens. Alors... normalement, on est le jour de la Saint-Valentin, donc évidemment, on aurait dû parler d'amour. Mais moi, je préfère peut-être répondre à l'interrogation de Nefché Irlian sur son dernier album. Est-ce que le soleil brille pour tout le monde ?
Donc son dernier album sur des textes de Jacques Prévert. Alors déjà, Prévert est ironique en 1931, et pourtant la situation qu'il dépeint ne semble pas bien différente de la nôtre. Une de ses chansons s'appelle Citroën. Aujourd'hui, elle devrait peut-être s'appeler PSA ou Aulnay. Parce que hier, un homme s'est immolé en France devant Pôle emploi, comme un mauvais remake de l'immolation de Mohamed Bouazizi. Alors on pourrait discuter de la conséquence de l'acte de Mohamed Bouazizi et de la situation de la Tunisie aujourd'hui, 2 ans après, mais pour ce chômeur. Alors souvenez-vous, déjà en août, un autre homme s'était immolé devant les bureaux des ACEDIC, enfin de Pôle emploi, et effet zéro. Voilà, effet zéro. Donc l'immolation, c'est une sorte d'image comme ça du départ du printemps arabe, et qui sonnait un peu la révolte, et qui me semble va être un peu l'image, peut-être le fil rouge de notre café Babel de ce soir. Et donc bien que le festival Montpellier à 100%, j'imagine, ne parle pas forcément d'immolation, si peut-être, je vais donner la parole à notre ami Bobby et à Luc pour nous parler justement de ce festival Montpellier à 100% qui a commencé hier ou avant-hier.
À 100% et par nature très transversal, c'est une exploration intime des arts mêlés. En tout cas, c'est une recherche. Et quelles sont les clés de la recherche en matière artistique aujourd'hui ?
En fait, nous, on s'en tient une ligne très simple, finalement. C'est faire le lien entre les artistes et le public. C'est ce qui est notre fil directeur, notre fil rouge. Et c'est vrai qu'en fait, là où on en est, c'est là où les musiciens nous ont amenés, là où les plasticiens nous ont amenés, là où finalement en sont les créateurs en 2013. Et on pourrait dire qu'on est versatile, mais je crois que c'est la créativité qui est versatile.
C'est la combienième édition ?
11e édition.
Voilà, avec une thématique particulière cette année ou...
Non, mais il y a des croisements qui sont intéressants. Par exemple, sur l'identité, on n'avait pas pensé faire un fil rouge autour de l'identité. Et on voit des artistes comme Ivo Dimchev, comme le Nu Collectif, comme Perrine en Morceau, qui questionnent le genre. Et ça nous renvoie à notre image et finalement à quelque chose que nous, on valorise. À savoir que justement, la question du genre, est-ce qu'elle se pose réellement, peut-être pour l'intime, pour l'individu? Mais en tout cas, au terme de la société, peut-être qu'on devrait laisser les choses se faire et moins être dirigiste dans la question du genre.
Vive la liberté.
Le festival est à 100%, donc dans combien de lieux sur Montpellier ?
Je dirais qu'on doit avoir une douzaine de lieux, mais je te dis ça à Bistot des Nas.
Merci Bobby. Elle est professeure de français langues étrangères à l'université de Lausanne. Docteur en linguistique et didactique. Elle a fait sa thèse sur le thème de la poétique du slam de la scène à l'école. Camille Vanger, bonsoir. Et si je vous dis Am Slam Gram.
Merci. Alors oui, Am Slam Gram, c'est le titre de ma chronique et c'est aussi le nom d'une association de Chambéry, Am Slam Gram, poésie du macadam. Association destinée à promouvoir et à développer l'écriture de textes poétiques pour les communiquer à autrui. Alors l'accent est mis sur le slam comme poésie scandée et déclamée. En ce qui me concerne, j'aime bien dire qu'il est poésie clamée, parce que le lyrisme est exclamation, selon Paul Valéry, et la poésie clameur, selon Léo Ferré. Parce que déclamer fait référence à une forme de récitation qui peut tourner à la monotonie, alors que clamer vient du latin clamare, ça veut dire crier, tout est là. Entre clamer et déclamer, il y a une différence d'intensité et aussi de rythme. S'agissant de Nefcheu Erlian, il serait plus juste, à mon avis, de dire qu'il clame, tant sa poésie et celle de Prévert qu'il fait revivre est engagée, militante. Bref, que le slameur clame ou qu'il déclame, ça rime dans les deux cas avec slam. Mais le slam, c'est surtout la poésie en marche, en mouvement. La parole poétique, incarnée, animée, et tant pis si ça ne rime pas. Le grand jeu des journalistes, c'est de trouver des images et des rimes pour leurs titres. Vague à slam, slam de fond, du slam à l'âme, le slam en flamme, et j'en passe. On pourrait faire une bombe de rimes, là, maintenant. C'est un jeu que les slameurs proposent souvent en atelier. Il s'agit de trouver des mots qui riment et de se les envoyer à la figure. Parce que le slam, c'est la claque. Normalement, on s'envoie aussi une balle, mais pas de balle ici, juste des mots. Alors, qui veut jouer ? Slam ?
Banane.
Slam.
Flamme.
Paname.
Alors, Paname. Batman. Mais non, le slam n'est pas né à Paname. Il est né à Chicago dans les années 80. Et là, ça ne rime plus du tout. Ça rime avec flamme aussi. D'où le titre du documentaire « Slam, ce qui nous brûle » de Pascal Dessau. Et aussi l'une des toutes premières compilations « Tout feu, tout slam ». Certes, ça rime avec âme. Alors quoi ? Des éclats d'âme ? Ça rime aussi avec dame. Et oui, le slam est aussi une affaire de dame. Dame Gabrielle, Laureline Kunz, Rime, Luciole, Tata Milouda sont là pour nous le rappeler. Tram. Ah oui, parce que le slam se déclame en tout lieu public. Arme. Parce que c'est l'arme des mots, M-O-T-S. L'arme des mots, M-A-U-X. Et puis ça rime avec gramme, et même avec cam. Un simple gramme de mon slam et tu t'envoles au pays des merveilles. Je cite ici Enterré sous X, collectif de slameurs toulousains. Étrange résonance avec les débuts du slam en France. Et avec le film Slam de Marc Lévin, dont le héros incarné par Saul Williams est emprisonné pour avoir dealé. Pour Frédéric Neffcheherlion et contre toute attente, mais le slam c'est aussi l'art de l'inattendu, slam rime avec Zorro. C'est la réponse qu'il a apportée à ma question « Le slam en un mot ». Pour lui, c'est la poésie qui revient masquée. Alors il faut savoir qu'il a été prof de français et qu'on le surprend encore aujourd'hui à dealer son slam dans les collèges. Parce que le slam met les mots à la bouche des élèves, le stylo à la main tel une épée, et parce qu'il met du baume à l'âme des profs de français. Parce que Zorro, c'est lui. Mais sa poésie et celle de Prévert, il nous l'a dit sans masque, juste en mouillant sa chemise et sa guitare, en allumant le feu, tout slam. La première fois que j'ai rencontré Frédéric, c'était sur un bateau dans le vieux port de Marseille. Il m'a parlé de la mer, qui sait si bien décliner les bleus et qui a inspiré ses premiers textes. Il m'a parlé de sa musique et de l'Amérique, son recueil de poèmes. Puis il m'a ouvert ses carnets dans un café à Grenoble. Il m'a montré ses griffouillis, c'est un mot d'Aragon, dans un livre de poésie. C'était du Patti Smith et il trouvait que c'était mal traduit, lui qui s'était essayé à traduire le Kaddish d'Allen Ginsberg. J'ai pensé que toute poésie est traduction, qu'elle est écrite dans une sorte de langue étrangère. C'est ce que nous disent Proust et tant d'autres grands écrivains. Que la littérature, c'est la rature, ça c'est Barthes qui nous le dit. Et que le slam, c'est l'orature, une forme de littérature orale, de bouche à oreille. Alors je crois que Prévert serait drôlement fier de voir et d'entendre ses poèmes clamés comme il se doit par ce poète à mi-chemin entre monde nouveau et monde ancien. D'entendre ces mots portés par tant d'énergie qu'on en reçoit une claque. Si c'est du slam, c'est pour cette raison-là, pour l'impact. Parce que cela ne répond pas du tout aux règles du genre, si genre il y a. Il n'empêche que Frédéric est passé par là. Et peut-être que Prévert aussi était un grand slameur. Ainsi que Flaubert dans son Gauloir. Ce besoin d'une poésie organique, d'une expérience physique, de cracher ses mots pour mieux en saisir le goût. Oui, Prévert serait fier assurément. Et sa petite fille est fière pour lui. Je l'ai rencontré à la Bellevilloise lors d'un concert pour la sortie de l'album « Le soleil brille pour tout le monde ». C'était le lendemain de ma soutenance de thèse, et le soleil que je n'avais pas vu depuis quelque temps brillait pour moi ce soir-là. Alors j'ai commencé à discuter avec Eugénie, sans savoir qui était cette jeune femme étrangement impliquée, jusqu'à ce qu'elle sorte sa carte et que j'entrevoie son nom. Il flottait une sorte de magie dans la salle, la magie de la poésie et de la présence, la danse des mots portée par la musique et par les corps, l'énergie de celui qui mouille sa chemise, et la nôtre aussi par la même occasion, qui nous fait vibrer. Tiens d'ailleurs, Vibrion, c'était le nom de son groupe, et ça vient d'Aragon là encore. Alors le slam, c'est aussi l'art de la chute. Donc il faut trouver une chute. Sans drame ni larmes, j'y mets toute mon âme. Alors quoi ? Qui a un dictionnaire de rimes ? Je suis en panne, ça rime presque, mais en fait, non, pas tout à fait. Ah ça y est, le slam, c'est le slam. Comment ça, c'est une tautologie ? Eh oui, mais là, j'ai épuisé mes rimes. Ah si, il me reste miam. Parce que la bonne poésie se savoure. C'est l'art d'accommoder les restes, disait Genet. Des restes comme ça, moi j'en veux bien tous les soirs. Alors, pour ceux qui seront là ce soir, il me reste à vous souhaiter un bon concert. Bon, c'est un peu plat. Osons bon Prévert, ou bien, comme Neffcheherlion est un nom imprononçable, il le dit lui-même et j'ai dû beaucoup m'entraîner pour y arriver, je propose de le couper, ce qui arrange bien mes affaires. Alors bon Neffcher. Et puisque Zorro est parmi nous ce soir, je propose qu'on lui demande d'expliciter sa métaphore.
Merci, c'est superbe. Alors déjà, je n'ai absolument pas répondu aux rimes parce que je trouve ça m'est presque insupportable. Mais c'est pas très grave. Je m'en foutais des rimes. Je voulais absolument écrire des textes où il n'y avait pas de rimes parce que ça me déprimait. Mais c'est pas. C'est pas grave.
Rimes et déprimes, ça avance.
Voilà, c'est ça. Alors, expliciter Zorro, c'est très simple. D'ailleurs, tu as dit que j'étais peut-être le vengeur masqué. J'aurais tellement préféré être Bernardo. Parce que Bernardo, c'est lui qui invente tout. Alors que Zorro, il ne fait qu'appliquer maladroitement les idées de génie de son valet. Parce que quand il revient du bateau et qu'il apprend qu'en fait, dans son village, règne un nouvel ordre qui, en gros, asservit vraiment les pauvres et les paysans, tout l'argent est confisqué, enfin bref, il se passe un truc qui va pas du tout. Le Zorro, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment il s'appelle Zorro, Don Diego, bien sûr. Diego se dit, je vais sauver, il faut que je fasse quelque chose pour sauver les gens de mon village. Il faut faire quelque chose. Et là, Bernardo lui dit, oh oui, bon, il parle pas, mais alors Zorro comprend qu'il lui dit, mais oui, il faut que je me déguise pour pouvoir agir. Et là, Bernardo lui fait signe de la tête. Et là, il lui dit, oui, mais si je me déguise, comment je vais faire pour ne pas éveiller les soupçons sur moi ? Et là, Bernardo sort un livre et lui fait un geste délicat de quelqu'un qui tourne une page et se frotte un peu les cheveux comme ça, d'un geste délicat justement. Et là, Don Diego dit, mais oui, il faut que je me fasse passer pour un homme de lettres. Parce que personne pensera que c'est moi qui vais sauver le village et qui sera en fait cet homme, courageux et intrépide qui est Zorro. Voilà. C'est ça l'explication. C'est l'explication est dans le film, quoi. Et donc moi, quand j'ai vu cette histoire de slam, moi, au fond, le slam, si tu veux, l'histoire du concours, tout ça, je m'en contrefoutais. Ce qui était extraordinaire, c'était de pouvoir mettre la poésie dans un bar, que n'importe qui puisse monter sur un bar, et avant que ce soit n'importe qui d'ailleurs, je pensais évidemment à moi et à mes poèmes que j'écrivais tout seul dans mon coin et que je rêvais de venir mettre sur les scènes de rock comme l'avait fait dans les années 60 Allen Ginsberg et tout un tas de gens. Et ensuite le Fluxus et Bernard Heitzig et tout qui a fait sortir la poésie des livres en la faisant se tenir droite avec le corps et donc le projeter ses poèmes, etc. etc. Et voilà, et donc cette histoire de Zorro, si tu veux, c'était fantastique. Moi, le slam, c'était une occasion que j'ai saisi de ne pas dire en premier lieu le mot poésie qui effraie tout le monde, qui continue à effrayer les gens. Et alors tu parlais que j'ai été prof de français, oui, alors je l'ai été, j'ai travaillé pendant un an et demi là-dedans, j'ai eu le CAPES, j'ai démissionné entre-temps, mais j'ai vu à quel point les gens à l'université étaient effrayés par la poésie. Et ensuite, à l'UFM, les gens étaient effrayés par les explications de poésie. Enfin, c'était une sorte d'idée reçue que la poésie, c'était difficile, incompréhensible, tout ça. Et moi, j'étais convaincu du contraire, parce que j'ai toujours pensé au contraire que c'était un moyen d'accéder plus facilement aux gens, au monde, etc. Bon, peut-être que c'était une folie de penser ça, mais je m'en fous. Et voilà, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter, mais tout ça pour dire que c'était Zorro, quoi. Et que je signe de la pointe de ma langue. Et je pense qu'il veut pas faire un truc là.
Non mais
il est en train, on dirait qu'il a envie de faire pipi.
Non mais il va arriver, mais c'est après.
Ah oui, coucou, vous êtes là vous. Ah,
ouais, bon. Moi je suis là.
Oui, c'est génial ce café, ça parle de tous les côtés.
Et donc bonsoir.
Bonsoir, oui, excuse-moi.
comment il est né ce projet autour des textes de Prévert comment ils ont été retrouvés et
Non, c'est très simple. Il n'y a pas de projet. Il y a en fait. Le mot projet est terrifiant. Hein. Ça devrait être rayé de beaucoup d'endroits d'ailleurs. Le projet, ça appartient trop à certaines politiques. Il faut pas le dire. Hein. Sincèrement, ça vous épargnerait beaucoup de problèmes d'ailleurs. Vous devriez pas dire le mot projet. Là, c'était une rencontre d'abord Camille Clavel, qui était amie personnelle de Jenny Bachelot-Prévert, qui apparemment avait son enfance avec elle, et elle lui racontait toujours que son grand-père était un homme insupportable, engagé, militant, virulent, enfin vraiment, et que ça en devenait vraiment insupportable. Et lui, il s'est dit, mais c'est vrai que finalement, l'idée qu'on a de Prévert, oui, on savait que c'était quelqu'un d'engagé, mais pas à ce point-là. Alors il a voulu faire un documentaire. Et la grande idée de ce documentaire, qui montrait donc, qui éclairait le Prévert nouveau, on va dire, ou en tout cas le Prévert qu'on ne connaissait pas assez, c'était d'inviter des jeunes auteurs, des poètes, des chanteurs, des acteurs, à dire des textes de Prévert et d'en montrer une certaine forme d'actualité, l'actualité de sa langue, de cette oralité, voilà. Et donc il a fait contact, il a pris contact avec moi parce qu'il connaissait ma musique par ailleurs et il l'aimait beaucoup. Et il m'a donné Le Soleil brille pour tout le monde, la deuxième partie du premier poème de parole, dîner de tête, description d'un dîner de tête à Paris, c'est ça ? Tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France. Donc on l'a mis en musique, on a un peu improvisé, il a filmé la session. Ensuite, à la projection du documentaire, Eugénie Bachelot-Prévert m'a été présentée par Camille. Et elle m'a dit, vous savez, il y a d'autres textes. J'ai d'autres textes, des textes connus ou moins connus, des textes inédits, des textes, d'autres versions de textes connus. Il faudrait que vous veniez. Et moi, ne connaissant pas Prévert, ayant une idée reçue assez étroite quant à Prévert, je ne voulais absolument pas continuer à mettre en musique des textes de Prévert. J'avais bien mieux à faire du haut de ma prétention de jeune rocker qui veut faire un groupe de rock donc et monter et chanter ses propres textes. Donc je suis allé là-bas en me disant il faut surtout pas faire un truc pareil. Déjà que j'ai énormément de mal à faire connaître ma musique et ma poésie, que les gens disent incompréhensible et intellectuel. Si en plus je vais faire un projet sur un vieux poète, ça pue la fin de carrière et le truc relou. Et voire même j'allais m'enfermer définitivement dans un carcan que tous les gens déjà essayent de me mettre dessus. Avec ma dimension littéraire, parce que j'étais prof de français, enfin tout le bazar qui rassure tout le monde et qui fait plaisir quand on ne veut pas chercher à comprendre un texte ou à se laisser porter par son émotion. Alors je suis allé là-bas quand même, parce que quand on a la prétention justement de devenir poète et que la petite fille de Jacques Prévert vous invite à aller chez elle, eh bien vous la fermez et vous dites « mais bien sûr, mais c'est extraordinaire, je vais venir ». Donc je me suis acheté un billet de train, je suis allé à Paris, je suis monté à la capitale comme on dit, je me suis acheté une super belle veste. Et je suis entré dans cette maison en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau chez vous, mademoiselle, c'est vraiment extraordinaire. » Et elle, me regardant avec un sourire, elle avait bien compris que j'avais absolument rien compris, encore une fois, que j'avais pas compris qu'en fait on était chez Jacques Prévert. Elle a ouvert une porte et il y avait le portrait de Prévert par Picasso au-dessus de cette porte. Je dis « Oh, waouh !» Elle dit « L'original, il est au coffre. » Et là, elle m'a regardé en souriant, elle a dit « Entrez ». Et là, je suis entré dans une pièce et j'ai bien vu que j'étais vraiment le dernier des cons et qu'on était dans le bureau de Jacques Prévert. C'était sublime. C'était comme s'ils venaient de le quitter parce qu'ils ont à peine... ils n'ont rien changé sur les... Ils ont laissé le bureau, ils ont laissé tout un tas de trucs. Et voilà. Et donc, et les textes étaient à côté, posés sur une table, des photocopies, tout ça. Et il y avait une enveloppe aussi dans laquelle il y avait des lettres. Et donc j'ai commencé à lire tout ça, et là je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire. Parce que c'est plus de l'écriture engagée, c'est-à-dire que tout à coup Prévert retrouvait une place extraordinaire dans la poésie, c'était plus l'écrivaillon ou le con que dit Houellebecq par exemple, même si Houellebecq a parfois raison quand il dit ça, sur certains points. Tout à coup ça devenait le poète, le grand poète, c'est-à-dire un poète avec une grande voix, et un poète avec une parole universelle, irrémédiable, une parole... Qui tout à coup, c'est plus Citroën, quoi. C'est plus seulement, il parle plus d'une circonstance. Tout à coup, ça devient tout. Ça devient l'humanité, ça devient n'importe quel nom de famille. Tout se substitue. Et cette parole, avec cette simplicité. Tout à coup, j'ai projeté Prévert. Et tout à coup, il est devenu l'ombre, ou pas l'ombre, mais il est devenu, tout à coup, il s'est mis à côté de Rimbaud, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré Arthur Rimbaud comme un poète du sublime, comme le petit prince de la poésie. Et tout à coup, je voyais que Prévert, en fait, il avait la même rage, le même dégoût des petits clans, de la bourgeoisie provocante de province, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Enfin, tout ce que Rimbaud dit avec ce caractère sublime, tout à coup, Prévert, lui, le disait avec une langue du bistrot, quoi. Mais c'était le même sublime, en fait. Voilà. Et donc je suis rentré chez moi avec les photocopies et j'ai posé ça sur une table et je passais devant les textes avec ma guitare et j'en ai fait quelques chansons. Mais comme je n'avais pas spécialement d'admiration pour Prévert, j'ai pu le faire. Si j'avais eu de l'admiration, je crois que ça m'aurait tétanisé. Et tout ça s'est fait comme ça, voilà. Il n'y avait pas de projet, ça se fait pas ça. Enfin, je veux dire. En tout cas, moi, je le fais pas. Je me dis pas, je vais faire un coup parce que là, je vais me faire un max de blé, quoi.
Un projet, c'est pas forcément un coup, hein. Mais...
Non, je sais. Mais là, je voulais pas faire un coup, quoi. Avec un projet de coup. Ou le. Ouais, je vais pas faire le slammer justement. Ça me déprime assez comme ça. Non, parce que j'ai beaucoup de difficultés. Après, moi, parce qu'en tout à l'heure, on parlait du slam et tout, mais moi, je m'en suis complètement éloigné. Je ne crois plus du tout. Je vais à l'utopie qu'on avait porté à une certaine époque dans le slam. C'est-à-dire que les slams, c'était des soirées ouvertes, des micros ouverts, et pas des concours. Et c'était des soirées où il y avait énormément de gens qui venaient, et surtout des gens qui ne participaient pas. Aujourd'hui, j'ai été faire encore des soirées slam, il n'y a pas très longtemps, là. On se retrouve dans un entre-soi qui me déprime. Il n'y a plus que des gens qui participent qui vont aux soirées. C'est déprimant. C'est pas ce que j'ai rêvé. C'est pas du tout ce qu'on a rêvé avec les quelques personnes avec qui on a imaginé ça. C'est déprimant. Et donc, ouais, ça me concerne plus, tout ça.
Le côté karaoké, en fait, vous plaît pas trop, c'est ça?
Le karaoké, c'est chouette, si tu veux, tant qu'il y a plein de gens qui participent pas. Parce qu'ils peuvent rigoler, tu vois, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. Ils sont pas là à être inquiets de parce que ça va venir à eux de passer, quoi. Ou ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un entre-soi, on n'est pas entre poètes. Moi, j'ai trouvé que le slam, la seule force du slam à une certaine époque, enfin, la seule force, une des forces du slam, pardon, c'était de pouvoir enfin dire de la poésie devant autre chose que des gens qui viennent pour écouter de la poésie. C'est-à-dire des gens qui viennent au bar pour boire un verre, qui s'en foutent, qui sont là, qui sont contre-table, qui a un mec qui est en train de dire des trucs. Et puis tout à coup, au détour d'un verre, ils se tournent, ils disent, putain, qu'est-ce qu'il raconte, lui, quoi. Et ils partent de là avec une phrase, un mot, un mec qui le a scotché, ou pas. Mais ils étaient libres, et surtout, c'était, voilà, c'était les gens, quoi. On va toucher les gens. C'était ça, mon idée. C'était, on va sortir de microcosme. Attention, je respecte énormément les lectures de poésie qui sont faites dans un cadre spécial avec des mises en espace, etc., etc. Mais c'est autre chose, là. Enfin, tu vois, il faudrait définir, faudrait en parler longuement, mais moi, c'était ça qui me passionnait. C'était l'utopie que ça pouvait porter d'un coup télescoper la vie de n'importe qui. Voilà. Dans un bar, c'était possible. Voilà, bon. D'accord. J'ai beaucoup parlé d'un coup, là.
C'était très beau.
Luc, je te laisse. Non, je croyais que tu allais prendre le micro pour dire quelque chose.
Oui, j'ai dit que c'était très beau.
Ah, d'accord.
Ce qui venait d'être dit.
Ben, peut-être alors qu'on va laisser la parole à Yaros.
Absolument.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique, et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires ou du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés à la privée de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt ou du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur contre de pied, ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit appartenir à une caste, à un parti ou au tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie qui n'est destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps. De notre temps, les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires sont encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd, il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Ruteboeuf avait faim, Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que tout sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir se vende, il ne reste plus qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui damnent le pion au soleil, avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont les chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des gens. À l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
Merci Yaros donc de cette reprise de Léo Ferré. Vous êtes bien donc au Café Babel sur Divergence FM 93.9 en direct du théâtre Jean Villard. Donc là, c'est notre rubrique photo-reporter. Alors, ça fait donc depuis le début de l'année qu'on reçoit des photographes. Et jusqu'à présent, on avait reçu plutôt des photographes documentaires. Et c'est vrai qu'on se posait la question. D'abord, peut-être la première question, c'est quelle différence, toi, Xavier, donc Xavier Malafosse, qui est avec nous ce soir, quelle différence tu vois entre des photographes documentaires et des photoreporters ?
Je dirais que la photo documentaire, c'est une photo qui nécessite plus de temps. C'est aller plus en profondeur, en fait, creuser ces sujets. Le photoreporter, pour moi, c'est un petit peu une sauterelle qui se déplace en fonction des... En fonction des sécheresses, quoi. C'est ce que j'ai fait l'an dernier et c'est ce dont finalement je suis revenu. C'est suivre l'actualité, essayer de coller l'actualité. Et finalement, il y a quelque chose d'assez frustrant parce qu'on n'a pas le temps de fouiller ces sujets, d'aller au fond des choses. La photo documentaire, c'est prendre le temps, prendre si besoin un mois, deux mois, six mois, un an, trois ans pour pouvoir suivre un. Pour pouvoir travailler son sujet.
Et donc toi, on voit quelques images de ton travail. Quelle est la direction que tu prends ? Est-ce que quand on est photoreporter, il y a des sujets qu'on a envie de plus travailler ? Comment ça se construit ?
Alors j'ai commencé la photo il y a 3 ans seulement, et je suis parti d'abord vers le photoreportage justement, donc à coller à l'actualité. Et donc en fait j'ai essayé de faire des sujets en étant indépendant qui étaient peu onéreux. Et par exemple là c'était en Catalogne cet été après les incendies. J'ai pas pu être présent pendant le grand incendie et j'ai voulu aller voir ce qu'il en était une semaine après. Et d'ailleurs la dernière photo qu'on a vue c'était plutôt chouette puisque on voit qu'une semaine après la vie repart. Dans l'absolu, moi j'ai commencé par faire du photo-reportage, mais j'aimerais glisser vers le photo-documentaire justement. Enfin, la photo-documentaire, photographie documentaire.
Parce que tu me disais que vous avez créé un collectif, Off-Source.
Voilà, on a créé un collectif qui s'appelle Off-Source avec 5 copains, qui sommes 4 photographes et 2 rédacteurs. Et on a justement commencé tous par le photo-reportage, et donc par enchaîner un nombre de sujets assez impressionnants. Et on en est tous un petit peu revenus, on se dit c'est dommage, pourquoi ne pas plutôt aller par exemple vivre un an en Espagne, au Portugal, et être résident en permanence, et pouvoir raconter, documenter la vie des gens. Moi j'ai eu un petit peu une frustration quand j'étais sur la place Tahrir, c'était en novembre 2011, je ne comprenais pas vraiment le sens de la photo qu'on faisait. on était des dizaines d'occidentaux et de locaux. Il y a aussi beaucoup de photographes, de photojournalistes égyptiens ou du monde arabe. Et à suivre une révolution sans vraiment la comprendre, on est là pendant une semaine très intense, 10 jours. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Il faudrait venir 1 an, 2 ans et vivre au quartier copte avec les gens qui travaillent, qui voient ou qui subissent la révolution ou qui participent. Et c'est de raconter la vie des gens sur le long terme. Le photoreportage, pour moi, tel que je l'ai pratiqué jusque-là, quelque chose d'assez frustrant. En tout cas, qui ne me satisfait pas. Et donc, le collectif s'est créé dans la logique de faire, on va dire, du slow journalisme. De prendre plus le temps et de faire des sujets de long terme, en les travaillant, en les documentant à tout point de vue. Donc, ça peut passer aussi par différents médias, parce que je pense que la photo, des fois, c'est le média le plus approprié. Des fois, un diaporama sonore avec des prises de son ou des séquences vidéo peuvent être plus intéressantes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine sur de l'actu à chaud.
Et tu me disais qu'au départ, le collectif était parti de plutôt sur le développement durable, enfin, ou sur des problèmes, en tout cas, climatiques ou environnementaux, et que tu as glissé sur le social. Vous avez glissé.
Oui, en fait, on s'est créé dans la logique de travailler surtout la problématique de l'interaction homme-environnement. Donc ça peut vouloir dire l'homme qui subit l'environnement ou l'écosystème qui subit l'homme. Ça va dans les deux sens. Et en fait, c'est très lié les sujets environnementaux et sociaux sont très liés. Puisque quand on suit, j'ai des copains qui ont couvert au sein du collectif des catastrophes naturelles, les populations les plus fragilisées sont toujours les plus vulnérables. On retrouve toujours un certain nombre de problématiques sociales. Donc finalement, on s'est créé en tant que collectif à vocation à faire des sujets environnementaux et on fera des sujets environnementaux et sociaux. C'est très lié en fait.
Et tu écris aussi, parce que ton blog est pas mal relayé en tout cas sur les réseaux sociaux par rapport justement à la condition de photoreporter. Est-ce que tu peux nous parler là de la dernière, je sais pas comment dire, cabale en tout cas à propos de la Syrie, il me semble, et de c'est quel journal américain qui a dit.
C'est un journal anglais qui s'appelle Est-ce que c'est le Sunday Times? Oui, c'est le Sunday Times qui a déclaré ne plus vouloir diffuser les photographies des indépendants qui sont partis sans commande en Syrie. Donc, il faut savoir que l'immense majorité des rédactions n'envoie plus aucun photographe du journal, salarié ou même les agences, parce que c'est trop dangereux. Et un certain nombre d'indépendants rentrent en Syrie, font un travail qui est même jugé par ces mêmes rédactions assez magnifique, mais qu'elles se refusent à diffuser, parce qu'elle considère que d'une certaine manière, c'est cautionner une pratique à risque, que c'est trop dangereux et que ce serait donner un encouragement aux indépendants, aux photographes à se rendre en Syrie et que ils n'ont pas à risquer leur vie pour faire ces photos. Et pour être honnête, c'est un discours qui m'insupporte. Non pas que ça me touche pas, puisque j'ai quand même perdu un ami en Syrie, Rémi Hochlik, c'était le 22 février 2012. Depuis que j'ai commencé la photo, il y a quand même eu... c'est pas une hécatombe, mais enfin, il y a quand même eu un certain nombre d'amis assez jeunes qui sont morts en pratiquant ce métier. Et je reste convaincu qu'il faut documenter, qu'il faut témoigner, qu'il faut y aller. Et que s'il y a des gens qui souhaitent courir le risque, sachant que quelque part ça fait partie du métier, et aucun des amis qui ont pu se rendre sur place, qu'ils en soient revenus ou non, n'avait l'intention d'y laisser leur peau. C'est des gens qui aiment vivre, qui veulent aussi témoigner, faire leur métier. Ça leur paraît important d'y être. Et finalement, de moins en moins, ils trouvent de débouchés derrière, puisque les rédactions ne veulent plus en entendre parler. Donc j'ai poussé un coup de gueule sur mon blog, et c'est un blog que j'ai créé il y a un mois et demi, un petit peu pour essayer de me re-entraîner à écrire, puisque la photo ne me satisfait pas en tant que photo uniquement. Plus je plonge dans la photo, plus je me rends compte qu'il est nécessaire, voire salutaire, d'écrire aussi à côté. Peut-être des fois de se dire qu'il faut faire des formats vidéo. Je pense qu'encore une fois, les différents médias ont différents rôles et que selon ce qu'on veut raconter, ça peut être bien de le faire à l'écrit, en photo et de savoir faire les deux. Et donc j'ai écrit ce petit papier qui est un coup de sang à chaud et en fait ça a effectivement été beaucoup relayé puisque je crois que beaucoup d'indépendants en ont marre de ce discours assez paternaliste qui est à la fois bienveillant et paternaliste. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si les rédactions s'inquiètent pour les photographes, elles ont qu'à commencer par payer la photo à son juste prix. Et ça, c'est malheureusement le constat qu'on fait, c'est que On voit sur cette affiche le bonhomme qui est à gauche de la demoiselle, qui a pas beaucoup de cheveux, s'appelle Romain Beurrier, c'est un ami qui est actuellement en Égypte et qui il y a une semaine s'est pris un cocktail Molotov dessus pour une photo qu'il a vendue à un journal que je citerai pas ici, qui s'est vendu 17 euros. Donc j'ai envie de dire que si les rédactions sont inquiètes pour les journalistes, elles ont qu'à commencer par payer les photos à leur prix. Voilà.
Alors nous à Hybrid, c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, les affiches du festival sont des photos de photoreporters. Cette année, donc, on a décidé de montrer le travail de Xavier Malafos. Alors ça, c'est un des visuels du festival. Il y en aura a priori 2 affiches. Est-ce que t'as envie, parce que donc moi j'avais commencé à rencontrer ton travail justement à partir de l'Égypte. Moi c'est là où j'ai commencé à voir ton travail. Et là j'avais aussi vu ces photos du donc 29 septembre il me semble.
C'est ça.
Donc ces manifestations en Espagne. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette photo s'est prise? Enfin comment c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là?
Alors en fait.
Donc peut-être qu'il faut raconter la photo pour nos amis de la radio.
D'accord. Donc on voit une demoiselle en petite tenue, on va dire, de dos, qui tient une affiche sur laquelle il y avait un message un petit peu « Faites l'amour, pas la guerre ». Je me souviens plus exactement du message, mais il parlait de paix, d'amour et de révolution. Et elle fait face à une haie de photographes, ils doivent être une quinzaine, une vingtaine, et qui sont tous en train de la photographier, qui essaient d'avoir la demoiselle et le message. Et en fait, cette photo, on la doit quelque part à ma petite taille. C'est que n'étant pas apte avec mes 60 kilos tout mouillés à jouer des coudes et des muscles avec les confrères, je me suis dit, je vais essayer de trouver un autre angle pour faire une autre photo, puis tout le monde est là, et ça fait pas vraiment sens. Encore une fois, je me pose souvent beaucoup de questions pendant les reportages. Pourquoi je vais faire cette photo? Qu'est-ce qu'on fait là? On fait tous pareil. Et je me suis dit, je vais passer derrière et pour essayer de faire une autre photo. Et donc voilà, je me suis retrouvé, j'ai un petit peu bousculé quelques personnes pour pouvoir aller derrière, parce qu'on avait beaucoup plus d'amplitude pour pouvoir travailler. Et j'ai fait une photo à contre-plongée pour essayer de montrer un petit peu le contre-champ, ça m'intéresse aussi. Les pratiques des journalistes et des médias pendant les reportages. Un petit peu l'effet, la nuée. Hop, il se passe quelque chose, tout le monde se déplace. Ces autres photos, donc on voit la même demoiselle de face, elles ont été faites par le collègue qu'on voyait au début, Romain, qui m'a accompagné sur ce reportage. On est parti 48 heures en Espagne, en fait, le temps de faire l'aller-retour pour couvrir cette manifestation, qui était contre l'austérité et les politiques budgétaires du gouvernement Rajoy.
Donc, par rapport à ce visuel qu'on a commencé donc à montrer aux gens avec qui on travaille sur le festival, et en particulier qu'on a montré à Nourdine Barra, puisque Nourdine, cette année, sur le festival Hybrid, on accompagne plus exactement Nourdine sur son temps fort, sur son petit festival d'une journée qui donc s'appelle Motif d'évasion et qui fera l'ouverture du festival le 6 avril. Et donc, Nourdine a voulu répondre à cette photo.
Alors cette photo, j'ai découvert il y a 3-4 jours chez moi devant mon ordi un peu par hasard, voilà, sans la chercher, je veux dire. Alors tout de suite, parce qu'intrigante, elle m'a interpellé, je me suis attardé dessus. J'irai sur le net depuis plus d'une heure et je l'ai surtout regardé dans un état d'abord contemplatif plus que dubitatif. Puis très vite, j'ai repris mes esprits. Je me suis senti autrement impliqué et pour cause, motif d'évasion, tu le disais, une journée de découverte du spectacle vivant. Créé l'année dernière dans le quartier, s'associe pour la deuxième année de son existence à Hybrid. Voilà, je venais de perdre à cet instant-là, en un quart de seconde, cette distance des premières secondes qui me faisait regarder cette photo avec la même attention, disposée à ce qu'elle me convainc, ou qu'elle puisse le faire. Enfin, la même attention que l'on accorde à celui qui vous parle. Alors à cette photo, j'ai fini par lui couper la parole. Aussi urgemment, j'ai baissé l'écran de l'ordi parce que ma mère passait dans mon dos. Et c'est donc avec l'idée qu'elle me paraissait impossible à montrer avec fierté ce programme auquel je suis associé à mon père, ma mère, que à presque minuit j'ai envoyé ce texto à Julien, un texto à Julien que j'ai aussitôt fait suivre d'un mail. T'es là, non t'es pas là. Je t'ai envoyé un texto un peu tard, désolé. Je suis tombé par hasard sur l'affiche d'Hybrid 5. Je suis du côté des plus sensibles. Il me plaît de diriger vers eux des textes, de la poésie, cette culture. Les mettre au défi d'y trouver à redire. Dans le quartier, c'est ma gageure. J'y vais patte blanche, les mains levées. Ta photo n'est pas une chose dont j'aurai à me justifier, ce n'est pas mon choix. Je ne veux pas avoir la défendre, la justifier, l'expliquer. De toi à moi, sans doute que je la comprendrai, mais de mon quartier à moi, c'est une discussion que je n'aurai pas, que je ne veux pas avoir. Je suis occupé ailleurs, à autre chose, chose que j'ai choisi de faire sur la pointe des pieds. On a un problème, là. Mon sentiment, je ne veux pas te faire renoncer à cette photo, elle est sûrement motivée par une raison ou une autre. Tu m'expliqueras pourquoi je ne dois pas penser qu'elle paraît quand même d'arrière-garde. On en reparle, appelle-moi. Julien me répond, le lendemain après-midi. Nourdine, j'aurais pas imaginé une seconde que tu puisses avoir une telle réaction à propos de cette photo. Ce n'est pas une photo haute. Elle raconte la détresse d'un peuple qui, pour être médiatisé, se trouve pour seule solution de se dénuder. Mais nous, que voit-on de cette nudité? Rien. Juste cette fille de dos, en culotte, les pieds sales, devant un mur de photographe. Bon, on en parle. Je t'appelle demain après-midi. Je réponds aussitôt, je crois. Avant que tu m'appelles, je te dis ici ce que j'arrive mieux à dire à l'écrit. Les mots viennent plus simplement. Le choix de ta photo est motivé pour de bonnes raisons, j'en doutais pas, et je pressentais que ton explication me suffirait. Maintenant, que reste-t-il pour aller manifester auprès des habitants du quartier ton envie d'un festival chez eux? Je pourrais te parler de ma façon de faire. Ma façon de faire fait que, sans en avoir peur ou honte, j'ai pu afficher des posters invitant à le rejoindre, le festival. Ma façon de faire fait que, la main dans la main, les yeux dans les yeux, de bouche à oreille, les flyers et des mots qui invitent à rejoindre Motif d'évasion a pu se faire sans craindre de choquer les gens, en étant certain du bien fondé de la démarche, avec un certain élan qui dit implicitement toute l'innocuité de la culture, qu'elle serait le contraire d'un danger. Un peu plus tard, j'ajoute ce mail. Cette photo est haute pour ceux qui la verront vite fait sur une affiche. Osée pour celui qui feuillera vite ton programme, une énigme pour la moitié de ceux qui l'auront bien lu. J'espère que ça valait le coup. Si ce que je fais paraît silly, c'est parce que je ne prends pas ce genre de risque, celui de la provocation pour interpeller. Je voyage léger, je veux aller au bout de la route. Mon nom, ma photo, dans un programme où des fesses te disent bonjour, je veux pas. Je peux pas. Et si t'avais l'idée généreuse de tracter dans le quartier ou d'afficher, il n'est pas une seconde pensable d'y associer motif d'évasion. Entre-temps, j'ai eu une conversation avec Fatia qui fait la communication à hybride. Les choses ont changé, une photo s'ajoute au visuel du festival, une photo avec des manifestants cagoulés et des ballons de couleur en arrière-plan. Un abattement semble les habiter. Un autre mail à Julien. Salut, on a du mal à se voir, alors écrivons-nous encore. Les choses s'arrangent pour ce qui est du problème que j'avais soulevé. Des affiches que Fatia m'a envoyées ouvrent un battant de la porte que je croyais fermée ou codée, qui mène à ton festival. Un battant m'autorise donc l'entrée. Et puisque l'on est lancé dans cette discussion, à mon sens, l'autre battant reste toujours difficile à passer. Paradoxalement, ce sont les gens qui grinceront en la passant. Elle fera sa sélection chez les esprits les plus souples, les plus avertis. Avertis, déjà avertis, c'est le public qui t'intéresse. Mais c'est ton festival. J'ajouterai ça et n'en parlons plus. J'ai pensé que la photo représentait une nana des Femmes, groupe activiste féministe qui agissent nus. Ensuite, je me suis dit que peut-être cela concernait le mariage pour tous, les poussiériotes aussi. Finalement, on est loin de tout ça, je sais maintenant. Fais un sondage autour de toi, je suis à peu près certain que mes deux premières remarques seront les premières hypothèses de ceux à qui cette photo se présentera sans légende. Derrière cette photo, des spectacles, des artistes qui attendent, espèrent qu'on facilitera le chemin d'un public vers leur œuvre. Ils participent pas au choix de la photo, bien évidemment. Mais j'arrête là, tu m'as compris. Julien me répond. Nourdine, je connais pas le public. Ce sont des individus qui pensent ce qu'ils veulent. Évidemment que ça fait penser aux poussiériotes, aux femmes, soit une nouvelle forme de révolte qui est apparue récemment parce que les femmes sont enfermées dans un moule. Donc oui, je trouve ça juste de présenter le combat des femmes. De ces femmes. Et pour moi, cette femme en culotte ou celle qui a le bonnet sur la tête, c'est la même révolte, exprimée autrement. Je crois pas du tout que ce soit une histoire d'esprit averti. Cette affiche n'est pas un obstacle au spectacle. Elle raconte en effet des choses elle-même. Je ne supporte pas ces affiches, ces visuels qui n'expriment rien, qui n'ont pas de sens. Alors, est-ce que je suis trop volontaire? Peut-être, comme dans mes spectacles. Parlons-en. Demain, il y a le Café Babel. C'est tout. Je voulais juste finir par ces dernières pensées, parce que j'ai pas fini de me bagarrer avec cette photo. C'est cette phrase de Coluche à laquelle je pense souvent, de plus en plus, et instantanément à chaque fois que ces non-faits divers, dont celui de ce monsieur qui s'est immolé par exemple devant la NPE, celui qui a déclenché les révoltes, ceux qui se jettent par la fenêtre de chez France Télécom. Je pense aussi à cette phrase quand je vois cette fille nue au sol, dont on accorderait à un homme ou une femme qui retirait sa veste pour la couvrir, la recouvrir comme un corps en flamme, tout son assentiment, moins que de vouloir couvrir cette photo. Je pense donc à cette phrase, souvent, de Coluche. Le suicide est une vengeance personnelle, et moi, personnellement, je m'en veux pas.
Avec le vent qui nous malmène, avec l'histoire qui se déchaîne, avec l'amour qui s'amenuise, et ces regards qui s'éternisent, avec ton corps qui me traverse, et puis c'est là, et puis ça berce, avec la beauté entre tes yeux, quand s'imaginent nos désirs. Avec les cœurs qui vagabondent, quand d'autres souffrent de ce monde, avec un œil dans les nuages, avec le rêve au coin de la page, avec ta bouche sur mes lèvres, avec tout ça, et puis j'en crève, quand on caresse les étoiles, quand le pinceau touche sa toile. Et je ne fais rien. D'ici je vois et je ne dis rien. D'ici je vois et c'est la fin. D'ici je vois demain.
Merci beaucoup, Yaros, en solo. Alors, pour notre dernière séquence, et donc notre agence de notation culturelle, Anne Devailly, bonjour. Je vous présentais comme une correspondante au Monde, et puis surtout, la créatrice d'un journal, d'un magazine sur l'actualité de l'art en Languedoc-Roussillon. Alors, c'est facile de monter un magazine là-dessus?
Non, vraiment pas du tout. De toute façon, c'est compliqué dans la presse. Tout projet de presse, quel que soit le secteur, est compliqué. Dans le secteur artistique, je ne sais pas si c'est plus compliqué qu'ailleurs, mais de toute façon, comme l'acte d'achat d'un journal maintenant est de plus en plus compliqué, c'est sûr qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans la presse aujourd'hui. Voilà, donc j'ai porté ce projet 2 ans et demi, 3 ans, avant de vraiment avoir le produit papier entre les mains. Voilà. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ça parce que c'est un journal papier et c'est aussi un site internet, plus tout ce qu'il faut aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin, voilà, le multimédia.
Et donc comment on y arrive alors,
pour créer un magazine comme celui-là?
Eh ben, je vous dis, il faut du temps. La première chose à faire, c'est de constituer une équipe. Et ça, on ne tombe pas tout de suite sur les personnes qui veulent vous accompagner ou qui ont la même notion que vous. Donc ça, déjà, ça prend du temps. Ensuite, il faut tester l'idée. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup d'artistes. J'ai vu aussi beaucoup d'élus. J'ai vu beaucoup de gens. Certains qui m'ont dit, tu vas te planter. D'autres qui m'ont conseillé de réorienter un peu les choses. Par exemple, Hervé Di Rosa, qui a été très, très sympa, qui m'a reçu très en amont du projet. C'est lui qui m'a conseillé d'aller encore plus dans une version grand public que ce que j'avais fait au départ. Donc c'est Hervé Di Rosa, par exemple, qui m'a conseillé de faire une rubrique « Un peintre devant ses toiles », qui est quasiment une rubrique genre pratique des arts, quoi. Donc j'ai suivi, j'ai écouté les conseils, j'ai pas tout suivi, sinon le magazine n'existerait pas, parce que beaucoup aussi m'ont dit que j'allais dans le mur. Bon, on verra bien. Hein.
Et comment on réussit à le financer, justement, parce que c'est vraiment un beau magazine
Alors, le premier numéro, on est une petite équipe, on est 5, on pouvait pas se disperser à aller voir tous les annonceurs potentiels. Donc volontairement, on n'est pas allé voir les galeries, on n'est pas allé voir les lieux d'exposition, etc. On pouvait pas. Donc on s'est concentré sur les grandes institutions, les grandes collectivités qui ont trouvé le projet intéressant, qui nous ont soutenus par de la publicité. Et puis maintenant que le premier est lancé, l'argent gagné par le premier a été entièrement réinvesti dans un envoi gratuit à 7000 amateurs d'art en région. Donc maintenant, évidemment, on va pouvoir aller un peu plus loin.
D'accord. Et la périodicité du magazine ?
Bimestriel. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est sur les arts plastiques. Vraiment. Donc les peintres, les sculpteurs, les photographes, évidemment. Tout ce qui touche au visuel. La BD, pourquoi pas, l'architecture, etc.
Et donc c'est l'art dans l'air ?
Art dans l'air, voilà. Avec un site internet, artdanslair.fr.
D'accord, bah merci beaucoup.
Merci.
Luc, ton billet d'humeur.
Disons-le comme ça. Festival à 100%, festival hybride, creuset tous les deux de l'expérimentation, de l'actualité, de la recherche. Atypicité du genre, Babel, magma d'où jaillit les signes tangibles d'une postmodernité à la recherche de l'échange, radicalité qui se confondent parfois pour devenir ordinaire, radicalité qui se confronte au changement du monde, souffle, élan, prémisse de lendemain nouveau, tout reste à construire.
Il y a peu, il était question de sourire. Il y a peu, il était bon temps de rire. De tout ça à pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballants, tang et bang, la vie c'est comme ça. Assiette qui vole, voilà le bon vent, il est devant. Jamais choisi hiver, printemps, on nous ment à pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballants, tang et bang, la vie c'est comme ça. Je vois l'appartement, je vois l'enfant. Tapis sur le tapis, il sourit de ses deux dents. Nos bras haletants se resserrent autour de lui. Le temps se serre contre nous, des baisers. À pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballant, tang et bang, la vie c'est comme ça. Y a peu insouciant de tout et de nous. Toujours en pleurs, en vadrouille et en rire, à pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballants qui tang et bang, la vie c'est comme ça. Oh la vie, c'est comme ça, ça change un peu, beaucoup, ça change à la folie, pas du tout. Pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballants, tang et bang, la vie vaut bien ça. À pleines dents, à pleine bouche, pourvu qu'on se touche. Aujourd'hui on se retrouve là, comme ça, bras ballants qui tangue et bang, la vie c'est comme ça.
Merci Rimbaud pour ce donc troisième Café Babel de la saison au Théâtre Jean Villard. On se retrouve le 9 avril pour le prochain Café Babel pendant le Festival Hybride. Merci à tous, à bientôt, au revoir.